enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ô éternel Dieu des cieux, puisse-tu par ta grâce divine et m'inspirer selon toi, afin que vraiment je puisse communiquer les choses qui viennent de toi. Éternel, donne-moi de m'exprimer selon toi. Mets les mots de ma bouche, éternel Dieu des cieux. Père éternel, manifeste ta grâce, dispose les cœurs afin de recevoir favorablement cette parole. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. En ce moment, nous sommes en train de transformer notre vie en une vie de champion. Et nous commençons à transformer nos vies par transformer, par voir un prodige, par voir un miracle dans notre vie conjugale, dans nos différentes situations conjugales. Amen. Jésus-Christ a introduit son ministère de victoire, son ministère de champion, en accomplissant un miracle dans des noces. Le miracle que la Bible appelait donc le miracle des noces de Cana. La Bible déclare que ce fut là que Jésus fit son premier miracle. Amen. Et moi, personnellement, avec tout ce que le Seigneur m'explique sur le miracle du couple, j'ai compris que un des premiers miracles que Dieu fait dans notre vie, véritable en ce qui concerne notre ministère, par rapport à ton ministère, par rapport à notre ministère, c'est le miracle du foyer. Alléluia. Personnellement, je l'ai expérimenté. Pendant plusieurs années, je servais le Seigneur. À l'extérieur, les hommes de l'église m'appréciaient. On trouvait que j'avais beaucoup de zèle pour le Seigneur. Mais Dieu, lorsqu'il me regardait, voyait en moi encore beaucoup de failles. Un jour, pendant que je priais, dans une vision, il m'a montré que mon corps, pendant que je priais, était divisé en deux. J'avais une partie qui était dans la lumière et une autre partie qui était dans les ténèbres. J'ai demandé au Seigneur, mais de quoi il s'agit? Et il m'expliquait que je manquais réellement de ma cote de sel qu'il me fallait pour entrer pleinement dans la vision qu'il a pour ma vie. Amen. Et à cette époque-là, je m'étais séparé de ma fiancée. Bon, c'était pas encore des fiançailles déclarées, mais de celle avec qui je priais, je m'étais séparé d'elle. Et je m'étais dit qu'il n'y a pas de problème. Si elle ne veut plus marcher avec moi, ce n'est pas grave, parce que c'est elle qui avait décidé de se séparer. Je la trouvais trop compliquée, trop difficile, trop chichiteuse. Je trouvais qu'elle se plaignait trop. Et puis bon, pour moi, je l'ai laissée. Bon, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus, j'ai accepté. Et bon, de toute façon, j'allais continuer mon ministère. Mon cœur était attaché au Seigneur. Tout le monde, on m'appelait déjà pasteur. Et puis, plus le temps passait, plus le Seigneur me montrait que j'étais faible. J'étais faible. J'avais l'impression que ma vie de prière baissait et j'étais en train de chercher à savoir pourquoi. Et quand je posais la question à Dieu, il me disait qu'il fallait que je puisse, que je résolve le problème avec ma fiancée de l'époque, celle qui est aujourd'hui mon épouse. Et je vous laisse bien expliquer, la séparation a duré pratiquement 4 ans. La première année, j'étais convaincu que j'avais raison. Parce que ce n'est pas moi qui avais demandé la séparation, mais cela venait d'elle. La deuxième année, Dieu m'a dit, et si tu avais tort? J'ai cherché la face de Dieu et j'ai compris que j'avais vraiment tort. Ça ne veut pas dire qu'elle avait raison. Ça veut dire qu'elle et moi, on avait tort. Alléluia. Donc, il ne faut pas interpréter, quand Dieu dit à quelqu'un, tu as tort, ça signifie que l'autre partie a raison. Dans un conflit, Dieu vous dit, vous de même, vous avez tort. Alléluia. Alors, il suffit qu'une de ces personnes-là revienne à la raison pour que les choses puissent se résoudre. J'avais beaucoup de griefs et beaucoup de plaintes et je me justifiais dans mon attitude avec beaucoup de versets spirituels pour justifier mon attitude. Et quand Dieu va me montrer que j'avais un problème, je vais commencer donc à prier par rapport à cela. Mais tout en priant, j'espérais qu'elle comprenne vite, qu'elle revienne. Mais non, elle ne comprenait pas, malgré mes avances, mes lettres. Je faisais l'effort d'être gentil, mais ce n'était pas naturel, ça ne venait pas de mon cœur. Parce que naturellement, j'étais quelqu'un de dur. Mais j'avais acquis cette dureté de par mon éducation. Et surtout, dans mon cœur, je manquais d'affection naturelle parce que j'en avais été privé au début de ma conversion. Comme mon nom l'indique, je suis d'origine musulmane. Donc lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai connu une séparation. J'étais très jeune, j'avais 15 ans pratiquement. J'ai connu une séparation émotionnelle, sentimentale d'avec mes parents. Et cette situation-là m'avait rendu endurci. Parce que pour moi, il fallait que je sois endurci pour résister à la persécution. Pour moi, il fallait que je sois ferme. Parce que souvent, on venait me dire que bon, à cause de ma foi, ma mère pleurait beaucoup. Or, je sais qu'elle m'aimait beaucoup et que je l'aimais aussi vraiment. Et on jouait sur le côté vraiment émotionnel. Donc, je me suis endurci. Et j'avais eu un cœur dur. Et à cause de cette attitude-là, donc, ma fiancée avait dû subir cette attitude. Donc, je ne sais pas dire je t'aime. Tu me manques. Toutes ces choses-là n'étaient pas en moi. Pour moi, tout était prière. La vie était spirituelle. Jusqu'à ce que Dieu m'ouvre mon cœur et pendant 3 années, il m'a fait comprendre que je souffrais de blessures intérieures. Aucune personne à l'église ne voyait cela. Parce qu'à l'église, on te voit combien de temps? Lorsqu'on me voit, c'est pour prier, pour prêcher Jésus, pour parler de Dieu. Donc les gens ne se rendaient pas compte de mes problèmes émotionnels. Et puis, tu n'as pas à te promener dans la ville et dire à tout le monde que tu les aimes. J'avais une grande dureté dans mes prédications. Quand je prêchais, j'étais très sévère. Je sanctionnais énormément le péché. Et les gens étaient là, donc on me voyait pour le saint. Mais mon message, c'est vrai, certes, venait de l'esprit, mais il y avait une connotation de ma souffrance intérieure. Ça veut dire quand il y avait une colère qui sortait dans mon message, qui n'était pas une colère due à la sainteté de Dieu, mais c'était une colère due à mes frustrations. Quelquefois, vous avez une manière de parler avec les gens. Vous pensez que vous êtes doux, mais vous n'êtes pas doux parce que vous-même, vous êtes blessé intérieurement. Et ce qui sort de vous, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il ne s'agit pas simplement de dire aux gens que vous êtes gentil ou bien d'avoir des mots attentionnés. Tu peux dire à quelqu'un, tu peux même poser un acte très gentil vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'une personne. Mais si ton cœur est dur, même dans ton cadeau, on sent de la dureté. On sent quelquefois peut-être un peu de, je dirais peut-être un peu même de mépris quelquefois. Ça dit, je donne le cadeau, mais que ça te plaise, que ça te plaise pas, moi, je m'en fous parce que dans la vie, j'ai appris à ce que personne ne me rende l'amour. Donc, si tu m'aimes, tu m'aimes pas, c'est pas mon problème. Moi, je suis gentil avec tout le monde. Celui qui prend, gloire à Dieu. Celui qui ne prend pas, je m'en fous. Et vous savez, on a souvent de telles attitudes et comme on n'a pas un miroir devant nous pour nous montrer que ce que nous sommes en train de dire, de faire, est imbibé de nos émotions blessées, vous voyez, on ne se rend pas compte. Il faut le mariage, il faut les fiançailles, il faut le conjoint pour se rendre compte de qui on est vraiment. De qui on est vraiment. Et le conjoint va toucher des domaines de notre vie que nous n'imaginons pas. Parce que les autres ne passent pas suffisamment de temps avec nous pour se rendre compte de ces problèmes-là. Amen. Généralement, les problèmes que les amis extérieurs constatent, ce sont les problèmes que nous-mêmes nous constatons. Si les gens te disent, tu es trop coléreux, tu le sais. Mais tu peux te justifier, mais tu sais que ce qu'il dit est vrai. Si les gens te disent, tu parles trop, tu le sais plus ou moins. Mais il y a un côté de ton être que tu n'arrives pas à percevoir. Et c'est là, c'est le conjoint qui, ton mari, ta femme, permet de voir cet angle-là de ta vie que tu ne perçois pas naturellement. Amen. Dieu a créé l'homme ainsi, nos deux yeux sont devant, tout ce qui se passe dans notre dos n'est pas visible. Même si c'est ton propre corps. S'il y a une tache au milieu de ton dos, c'est ton dos. Mais tu ne sauras pas que ton dos a un problème. Il faut quelqu'un d'autre pour te le dire. Alléluia. Alléluia. quelqu'un qui peut enlever ta chemise, voir ton intimité et te dire que derrière ta cuisse ici là, il y a une cicatrice. Tout le monde n'a pas droit à cette partie de ton corps. Et toi aussi tu n'as pas droit parce que tu ne peux pas le voir. Il faut forcément quelqu'un d'autre. Amen. Et ces angles-là différents sont très vite perçus lorsqu'on commence à vivre ensemble, dans un couple. La femme voit un angle de la vie de son mari qu'il ne voit pas, le mari voit un angle de la vie de sa femme qu'elle ne perçoit pas. Et lorsque l'autre te dit avec la colère, mais je te dis que tu es ainsi, le conjoint s'irrite, il se fâche, parce que lui, il ne voit pas la même chose. Et il trouve que c'est l'autre qui exagère. Et c'est de là que naissent tous les problèmes. Moi, j'étais convaincu d'avoir raison, jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux par le miroir de sa parole. Il m'a ramené toutes les paroles qu'elle était en train de me dire, que je trouvais, qui étaient des paroles méchantes. Je trouvais quelquefois que c'était animé par... Je dis, ça c'est un démon même qui te fait parler comme ça. Parce qu'elle ne le disait pas aussi avec amour. Pourquoi elle ne parlait pas avec amour? Parce qu'elle-même, ma fiancée, elle souffrait de frustration vis-à-vis de ce qu'elle avait subi dans son enfance. Elle n'a pas été élevée par ses parents. Elle a tourné de famille en famille. Et son cœur est devenu, le cœur de la femme étant fragile, elle s'est enfermée. Elle a mis une certaine carapace sur elle. Donc lorsqu'elle-même me donnait un conseil, son conseil était imbibé de dureté. Et quand on te parle avec dureté, tu réagis aussi avec dureté. Pourtant, le fond de ce qu'elle disait était vrai, mais la façon dont elle parlait, elle ne peut pas parler autrement, parce que c'est ce qu'elle avait reçu de la vie. La vie avait été sévère avec elle, lorsqu'elle parlait, c'était sévère. Lorsqu'elle était frustrée, elle réagissait avec sévérité. Et beaucoup de personnes sont comme cela. Alléluia. Alléluia. Alors pendant ces 3 années de séparation, Dieu va transformer ma personne et ça va avoir un impact direct sur mon ministère. Je vais commencer à constater que les gens à qui je parlais de Dieu depuis des années vont commencer à se tourner vers le Seigneur. Je vais me rendre compte que même au niveau de l'école, au niveau de ma profession, au niveau du boulot, les gens subitement auront envie de se convertir. Et j'ai compris une chose. Pour réussir à dessiner, il ne faut pas seulement savoir parler. En tant qu'un prédicateur, savoir prêcher. Mais il y a quelque chose d'autre dans un message. Je sais pas, qui ne vient pas de la connaissance biblique, mais qui vient du cœur. Amen. Qu'un cœur qui est rempli de douceur et d'amour, c'est-à-dire, ça imbibe une certaine parole et ça porte un fruit extraordinaire dans la vie de tous ceux qui reçoivent un tel message. Alléluia. Vous ne pouvez pas vraiment rentrer dans votre ministère si vous ne réussissez pas le défi conjugal. Amen. Sauf bien sûr ceux qui sont appelés à se marier directement à Jésus. C'est-à-dire ceux qui ont l'appel à être comme Paul, l'appel du célibat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cet appel parmi nous? Je vous encourage depuis quelque temps à accepter ce ministère si Dieu vous le... Alléluia! Mais c'est merveilleux d'être marié. Amen. Amen. Alors donc, il faut accepter de laisser Dieu vous transformer par ce que vous êtes en train d'entendre. Parce que il y va de votre travail, il y va pour votre profession. C'est le premier miracle que Dieu veut accomplir dans votre vie. C'est son premier miracle. Vous donnez le vase qui produise un vin nouveau. Amen. Alléluia. Alors nous sommes en train d'étudier, de voir comment est-ce que la femme, une femme peut ramener donc le vin nouveau dans son ménage. Amen. Ou comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore marié peut se préparer à connaître dans son foyer constamment un vin nouveau. Et nous avons cité beaucoup de choses, entre autres, ne pas accepter la situation, faire une liste des problèmes, et au troisième point où nous étions donc mardi dernier, c'était donc se soumettre. Et nous avons dit que la soumission évolue en 3 dimensions. Quand la Bible parle de soumission, la Bible parle de 3 dimensions de la soumission. La première dimension, c'est la soumission en tant qu'amour, agapé. Et la soumission en tant qu'amour, c'est ce que nous avons étudié mardi dernier, nous avons parlé donc de l'agapé. Ce que j'ai dit en ce qui concerne l'amour agapao, l'amour agapé, est valable pour les hommes comme pour les femmes. L'amour agapé est la base du mariage selon Dieu. Alléluia. Nous avons étudié donc que les couples dans le monde s'unissent sur la base de Eros ou de Philéo. Ça va, tout le monde connaît ça maintenant, hein? Tout le monde le sait. Voilà, donc ceux qui n'ont pas suivi, il faut prendre l'enseignement du mardi dernier. Les hommes s'unissent sous la base de l'amour Eros. Donc une femme peut se marier sous la base de l'amour Eros lorsqu'elle est attirée vers un homme à cause de son argent, à cause du matériel. Lorsqu'elle veut bâtir son foyer en disant, bon, moi dans la vie j'ai trop souffert financièrement, il faut que je trouve un homme capable de prendre soin de moi matériellement. Sur cette base-là, elle commence à regarder les personnes, elle choisit son conjoint, et puis dans sa recherche, elle trouve quelqu'un qui peut l'assurer financièrement. Elle rentre dans le mariage. Permettez-moi de vous dire déjà que ce foyer-là, il est destiné à un échec. Parce que le fondement de ce mariage, c'est Eros. Alléluia. Dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 4, on a vu que dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, et leurs enfants. Donc, l'amour s'apprend. Donc, on peut se marier aussi sur la base de Eros. Et les couples, la majorité des couples dans le monde se marient soit sous la base du sentiment Eros, soit sous la base du sentiment Philéo. Eros encore peut être quoi? Quelqu'un veut vivre à l'étranger. Donc, tu cherches à tout prix à marier un étranger, à t'associer à un étranger. Donc, dès que quelqu'un arrive, il te dit qu'il a la nationalité qui t'intéresse, tu as l'impression de tomber amoureux de cet individu. Le sentiment que tu as là n'est pas un sentiment divin, c'est un sentiment Eros. Vous voyez ce genre de mariage très souvent en Occident pour ceux qui cherchent les papiers. Donc, ils regardent dans l'église, ils sont là, ils sont aux États-Unis. Le monsieur, il veut la nationalité. Donc, dès qu'il y a une fille qui a la nationalité américaine ou française, il est prêt à faire le mariage. Heureusement, il y en a même qui ont dit, bon, c'est mieux, il faut qu'on fasse un arrangement maintenant. Et malheureusement, il y a des foyers qui s'établissent sur ce genre de fondements, qui sont des fondements d'Eros. Eros, c'est tout ce qui, toute union qui vient pour satisfaire un désir charnel. Des hommes se marient avec des femmes parce que simplement leur physique les attire. Toutes ces choses-là amènent un foyer désastreux. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut renier le sentiment Eros, mais je dis qu'il n'est pas le premier sentiment qui établit le mariage. Amen. Et tout couple qui s'unit sous la base de Eros est voué à connaître l'échec. Du moins dans un premier temps, jusqu'à ce qu'ils invoquent le Seigneur et que Dieu change le premier vase, c'est-à-dire la première mentalité avec laquelle ils ont bâti leur couple pour leur donner un nouveau vase qui lui est basé sur l'amour agapé. Certaines d'autres personnes se marient sur la base de Philéo. C'est toutes les personnes qui attendent du mariage l'amitié, l'affection. Que ce soit Eros ou Philéo, ces deux sentiments-là dans le corps de l'homme sont d'abord des sentiments égoïstes. Ils viennent pour satisfaire la personne, elle-même. Je cherche un ami, quelqu'un qui prend soin de moi, quelqu'un qui sait m'écouter, quelqu'un avec qui je parle vraiment, je me sens bien. Le seul amour dont la Bible parle qui ne finit jamais, c'est l'amour agapé. La Bible dit, les prophéties cesseront, toutes les choses que vous connaissez cesseront, mais agapé, l'amour, ne cessera jamais. Donc, lorsque le foyer est basé sur l'amour agapao, l'amour agapé, comme c'est un amour qui est éternel, il se renouvelle constamment, il va de gloire en gloire. Alléluia. Et le couple donc qui a basé sa relation sur agapé est renouvelé constamment. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir? Amen. D'accord, j'ai fait un diagramme là, vous l'avez? Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut avoir? Lorsque je me rends compte que le premier vin vient à manquer, le premier vin est parti, c'est-à-dire vraiment, pour mon conjoint, je commence à ne plus rien éprouver, vraiment il ne me dit plus rien. Ça veut dire tout simplement que j'avais un problème. Je m'étais uni auparavant avec lui, soit à cause de Philéo, soit à cause de Eros. Et quand ces choses partent, ça ne signifie pas que je dois l'abandonner. Ça signifie simplement que j'ai besoin d'un deuxième vin, que j'ai besoin du vin de la gloire. Amen. Alléluia. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais développer l'amour agapé. Dieu ne bâtit pas votre couple sur vos premiers fondements. Lorsque Jésus-Christ a voulu renouveler le vin, il n'a pas demandé « Amenez-moi le premier vase qui avait servi à porter le premier vin qui est venu à manquer. » Il a dit « Voilà 6 vases qui sont destinés à la purification des Juifs, amenez-les-moi. » C'est sur la base de ces vases-là que je vais faire le miracle. Le fondement même, ta première mentalité avec laquelle tu as bâti ton foyer est fausse dès le départ. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ton foyer est en train de battre de l'aile. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut le savoir. Si vous n'êtes pas préparé à cela, vous allez connaître un moment de tristesse, des moments d'angoisse, des moments de pleurs dans votre foyer parce que vous ne bâtissez pas comme il faut bâtir. Donc il faut commencer avec l'amour agapé. Dis avec moi agapé. Agapé. Et donc, on a vu ce que c'est que l'amour agapé. L'amour agapé manifeste beaucoup de la patience envers son conjoint. L'amour est patient. C'est un amour qui croit tout, qui espère. C'est un amour qui supporte tout. Donc, je ne suis pas avec la personne parce que j'attends quelque chose d'elle. Mais je suis avec elle parce que je sais que je vais lui apporter quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il arrive souvent qu'une femme ou bien un homme manifeste ce type d'amour-là. Quelquefois, vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis de votre enfant, vous avez quelquefois les deux choses. Vous avez l'amour filial, vous êtes attaché à votre enfant. Mais quelquefois, avant de cela, vous avez un amour, pour les femmes qui aiment vraiment leur enfant, un amour agapé. Ce qui fait qu'une maman supporte tout. Mais il arrive des personnes, vous avez des relations entre mère et enfant, ou bien entre père et enfant, lorsque dans leur relation, le filéo, ça veut dire ils sont attachés de manière filiale seulement à leur enfant, lorsque survient des difficultés, c'est-à-dire par exemple, l'enfant sort du chemin qu'ils avaient tracé, le père ou la mère sont tellement frustrés qu'ils renient l'enfant. Ça suppose, ça veut dire simplement que l'amour qu'ils avaient pour cet enfant était juste un amour filéo. Parce que c'est l'amour filéo qui fait beaucoup souffrir. Lorsque la personne ne marche pas comme tu l'aurais souhaité, tu en souffres énormément. L'amour filéo donne des blessures intérieures. C'est l'amour filéo qui fait qu'on se sent le mal, qui fait qu'on est frustré. C'est l'amour filéo qui rend les gens susceptibles. Alléluia. Alors donc, pour parler à cela, il faut toujours commencer par agapé, être patient. Sentir réellement que on aime l'autre. Un amour qui offre. Comme Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu a tellement aimé les hommes. Il n'a pas attendu que les hommes l'adorent. Mais il a donné sa vie pour les hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit. Ok. On va aller pas à pas. Donc, agapé. De agapé va naître filéo. Bon, généralement, je dis, quand vous rencontrez quelqu'un que vous allez aimer, les trois petits sentiments, les trois sont un peu là. Il y a un peu d'agapé. Bon, si vous connaissez agapé, si vous êtes un bien bon frère en Christ, vous avez suivi les procédures, les choses que je vous ai dites au début, vous allez avoir un peu d'agapé, un peu de filéo quand même, et puis un peu d'héros, en petite dose. Alléluia. Non, parce que quand même, il faut que le conjoint, physiquement, il vous plaise. Vous comprenez, non? Voilà. Ça, c'est important aussi. Si physiquement, la personne vraiment ne te dit rien du tout, c'est très fort probable que... Ok, mais c'est très probable que ce ne soit pas la bonne chose. Mais tu ne peux pas baser ton union là-dessus. La base, c'est l'amour agapé. Amen. Je me marie pour offrir. Ce qui fait que tu peux aller. Bon, je ne souhaite pas. Mais quand on voit les gens qui sont mariés pour d'autres sentiments, il suffit que leur conjoint, quand tu es marié pour Eros, le type n'a plus d'argent, la personne veut partir, elle va se chercher. Elle va se chercher. Ou bien par exemple, tu étais là. Tu étais avec ta femme et puis elle tombe malade. Elle est tout le temps malade. S'il n'y a pas agapé, que tout ce qui t'intéressait sur la femme là, c'était Eros. Mais à un moment donné, tu as dit, mais madame, tu es toujours malade, moi je vais aller me chercher. Amen. Alléluia. Donc agapé est un amour qui est éternel. Il ne finit jamais. Et parce qu'il ne finit jamais, il renouvelle constamment l'amour filéo. Alléluia. C'est-à-dire, vous trouvez toujours quelque chose d'être ami avec votre conjoint. Et puis, il développe par la suite Eros. Amen. Mais si vous inversez la pyramide, tout tombe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant donc, comment amener l'amour agapé s'il n'est pas là? Comment ramener l'amour agapé s'il n'est pas là? Diapo 33. La première des choses, vous savez, l'amour agapé, ça veut dire que tu es déjà dans ton foyer. Tu as fait une erreur, tu t'es marié pour Eros, tu t'es marié pour Philo, tu t'es marié... sous force prophétie, tout ça. Ah, parce qu'il y en a qui souffrent. Oh oui, dernièrement j'ai rencontré un frère qui est venu me témoigner. J'avais envie de pleurer pour lui. Mais c'est vrai, les gens ont fait une cabale de fausses prophétesses. Vous dites, voilà, laisse cette femme-là, voilà ta femme, voilà ta femme, voilà ta femme. Dès qu'il arrive, les gens tombent en transe. J'ai dit, c'est ton mari, c'est ton mari, c'est ton mari. Mais c'est du n'importe quoi. N'acceptez jamais de vous marier avec une personne par prophétie. Jamais. Dieu n'a jamais fait des choses comme ça. Et il y a des faux prophètes qui circulent dans le pays, en train de marier les gens, et tu leur dis, Dieu a parlé. Donc, le frère s'est engagé dans cette situation parce que Dieu avait parlé. Mais Dieu n'a jamais parlé. Même Dieu n'a pas obligé Adam à marier Ève. On a expliqué ça. Il faut prendre le début de l'enseignement. On a expliqué que Adam a eu le choix. Alléluia. Entre les animaux et puis... Amen. Il a cherché dans la forêt parmi les animaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut comprendre que votre mariage, Dieu est là-dedans et vous êtes d'accord. Les deux volontés vont ensemble. La volonté de Dieu et votre volonté. Amen. Maintenant, c'est votre volonté qu'il faut transformer. Comment la transformer? Il faut que votre volonté soit d'abord imbibée de agapé. Amen. Bon, maintenant j'arrive pour ceux qui sont déjà mariés. Donc, vous constatez que tout a disparu. Il n'y a plus d'éros, il n'y a plus de filéo. Il faut passer par le renouvellement. En fait, vous n'êtes plus attaché à la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à confesser son amour. Agapé est un commandement. Agapé n'est pas un sentiment. Vous me suivez? Agapé est un commandement. La Bible dit, voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Dans le grec, c'est, voici le premier commandement, tu vas agapao, le Seigneur ton Dieu. Il n'a pas dit, voici le premier sentiment. Agapé n'est pas un sentiment. Un sentiment, c'est quelque chose qu'on ressent. Tu vois la personne et puis ton cœur bat. Et puis tu sens une chaleur. Ça, c'est un sentiment. C'est un sentiment, tu es couché comme ça et puis, et quand je pense à lui, tout ça, ce sont des sentiments. Je n'ai pas dit de ne pas en avoir, mais les sentiments varient avec le temps. Les sentiments changent en fonction des circonstances. Tandis que l'amour dont il est parlé en 1 Corinthiens chapitre 13, lui, il ne change pas. Donc il peut être un sentiment. Parce qu'un sentiment évolue. C'est pour la raison pour laquelle justement le vin finit. Parce que justement, le vin, le premier vin est basé sur des sentiments. Or, un sentiment est créé par des circonstances. Dès que les circonstances disparaissent, il n'y a plus de raison d'avoir le sentiment. Le sentiment commence à s'éteindre. Amen. Alléluia. Alors, donc, comment donc ranimer? Donc, avant de chercher le sentiment, il faut chercher agapé. Et comment on cherche agapé? Agapé, c'est un commandement. Il faut confesser. Tu regardes, tu prends la photo de ta femme que tu n'aimes plus. Tu prends la photo de ton mari que tu n'aimes plus. Tu mets ça dans ton bureau et puis tu regardes. Mais je l'aime. Commence à confesser. C'est un commandement. Tu ordonnes à ton cœur, à ta pensée, à ton être, d'aimer cet homme et d'aimer cette femme. Et tu le dis tous les jours. Si tu commences à penser ainsi, quelqu'un me comprend? Si tu regardes la personne et que tu te dis chaque jour, lui-là, je l'aime plus, lui-là, je l'aime plus, ça détruit totalement toute possibilité d'agapé. Et tu ne fais que traduire dans ta bouche ton philéo ou ton éros. Tu es en train de dire, lui, il ne m'attire même plus. Alléluia. Or, on ne cherche pas de sentiments pour le moment. Les sentiments doivent venir après. Là, ils sont en train de parler des gens déjà mariés. Amen. Amen. Alléluia. David dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, ce que je dis peut produire la vie ou ce que je dis peut produire la mort. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder mon homme, mais la femme que je pense ne plus aimer. Bon, que Philéo est déçu de la personne. Philéo dit, je ne le supporte plus. Eros dit, il ne m'attire même plus. Il n'a plus l'argent, il est moisi. Eros a des arguments. Eros, c'est par exemple Eros, un truc que j'ai oublié de citer sur Eros, c'est l'amour Eros de se marier simplement pour avoir un enfant. C'est un type d'amour Eros. Donc, du coup, il y a des gens qui se marient. Après quelques mois, quelques années, s'il n'y a pas d'enfant, le monsieur n'aime plus la femme. On ne se marie pas à cause des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Est-ce que vous me comprenez? On se marie parce qu'on aime quelqu'un. S'il n'y a pas d'enfants, gloire à Dieu. S'il y a des enfants, gloire à Dieu. André, vous n'êtes pas d'accord encore. La Bible dit que tu quitteras ton père et ta mère. Laissez ces histoires du village où la maman doit venir te dire, depuis là, un bébé n'est pas encore arrivé. Et tu as la pression de l'extérieur qui t'oblige. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Tu n'étais pas... Vous savez, dans la tradition, on ne se mariait pas avec les principes de Dieu. Je vous expliquais que l'Afrique se mariait très souvent sur des notions d'éros. Et l'Occident a plutôt basé ses mariages sur filiaux. Mais que l'un comme l'autre ont tous échoué. Alléluia. Les foyers sont désastreux. Et Jésus-Christ vient pour restaurer la famille. Et il dit, voilà comment Dieu l'a fait au commencement. C'est pourquoi il dit, est-il permis de divorcer? Jésus dit non, au commencement, il n'en était pas ainsi. Si vous voulez savoir comment le mariage fonctionne, il faut revenir au commencement. Dès l'instant où vous n'êtes plus dans le commencement, mais votre mariage ne peut plus fonctionner. C'est pourquoi il a dit, prenez 6 vases qui marquent le commencement même du mariage. Car c'est le 6e jour que Dieu a célébré le premier mariage. Alléluia. Alléluia. Donc il ne faut pas se marier parce qu'on veut simplement des enfants. Il ne faut pas se marier pour toutes ces choses-là. Il faut se marier parce qu'on aime une personne. Si Dieu vous a donné un enfant, que son nom soit loué. S'il n'y en a pas, que son nom soit loué. Mais il vous en donnera. Alléluia. Il vous en donnera. Amen. Si Elkanah s'était marié avec Anne simplement pour l'enfant, il y a longtemps qu'il aurait divorcé et on n'aurait pas eu Samuel. On n'aurait pas eu Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Rappelez-vous Zacharie avec Élisabeth. On n'aurait pas eu Jean-Baptiste. On n'aurait pas eu de grands hommes de Dieu. Tout simplement parce que les gens n'ont pas su attendre le temps de Dieu. Zacharie aimait sa femme. Ils étaient vieux en âge, mais c'était marié parce qu'ils s'aimaient. Et ce n'est pas à cause de ça. On n'a pas dit que Zacharie avait 3 femmes. Il a gardé sa femme. Il n'a pas pu avoir d'enfant. Et gloire à Dieu. Il est en train de vieillir. Il dit, moi-même, je vais mourir sans enfant. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Je veux parler à un frère et puis à une sœur. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu veux regarder quelqu'un, il faut être prêt à tout. Pose-toi la question. Celui-là, si on se marie et puis je n'ai pas d'enfant, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas aller chercher un enfant dehors? Si tu commences à raisonner comme ça, c'est que tu n'agas pas ou pas? Ok. Il faut confesser son amour. Alléluia. Regarde et puis dis, ce gars-là, je l'aime trop. Oh, tous les jours, il t'énerve. Mais tu viens quand même, tu regardes la photo. Je l'aime. Tu arrives à la maison, insulte, injure, quitte-la. Tu regardes la photo dans ton bureau. Je l'aime. C'est un homme merveilleux. Et puis, Marie, tu regardes la femme. Oh, tu l'aimes plus, hein. Philo est fini, Eros est fini. Mais tu regardes. Mais c'est une femme extraordinaire. Et tu commences à confesser ce que tu veux voir d'elle. C'est une femme merveilleuse. Elle est extraordinaire. Tu commences à annoncer les choses. Tu annonces ce que tu veux voir. Et la Bible dit, la vie est au pouvoir de la langue. Et ce qui va se passer, alléluia, c'est que pendant que tu confesses ces choses, que tu es en train d'aimer ton conjoint, où Philo était parti, Eros était parti, pendant que tu confesses, Philéo va suivre. Philéo va redémarrer. Parce que c'est ça le vin nouveau. Le vin nouveau est basé sur la parole. Qu'est-ce que Jésus-Christ a demandé à ce qu'on mette dans les vases? De l'eau. Et l'eau, c'est le symbole de quoi? La parole. Alléluia. Amen. Pour renouveler le vin, il n'a pas utilisé du vin. Il n'est pas parti acheter du vin. Mais il a pris de l'eau. Et l'eau, on peut en avoir partout. L'eau, c'est le symbole de la parole. Et c'est sur la base de la parole. Alléluia. Il a dit, allez donner à l'ordinateur du repas. Et quand les gens ont goûté le vin qui était venu de l'eau, ils ont vu qu'il était meilleur. Parce que le philéo qui naît de agapé est meilleur que le philéo qui est né sans agapé. L'amour éros vis-à-vis de ton conjoint qui naît de l'amour agapé est plus beau, est plus noble, est plus grand que l'amour éros qui naît sans agapé. Donc il faut commencer par confesser. La Bible dit, Romains chapitre 4, verset 17, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Regarde, la Bible dit, c'est qui est celui-là? Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comment est-ce qu'il donne la vie aux morts? Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient là. Donc, l'amour philéo n'est pas là, mais agapé, lui, il appelle comme si ça existait. Tu as toutes les démonstrations que l'amour est finant entre ton conjoint et toi et tu commences à confesser. Tu appelles que ce monsieur et moi, nous vivons bien. Nous sommes un couple heureux. Nous voyageons partout. Nous sommes heureux. Alléluia. Alléluia. Parce que retenez, le vin nouveau, ce qui fait qu'on est ivre. Hein, l'ivresse là. En fait, il vient de philéo, c'est Eros et philéo. Parce que agapé, il est très calme, il n'est pas passionné. Vous comprenez, non? Voilà. Mais philéo et Eros, qui ne viennent pas de agapé, vont finir. L'eau que Dieu a mis dans, que Jésus a demandé à ce qu'on mette dans les vases, c'est agapé. Amen. Voyez ça comme agapé. Et ce agapé-là a créé le vin nouveau. Le vin nouveau, c'était le philéo et le eros. C'est-à-dire, les mariés ont commencé à nouveau encore à se réjouir. Parce que la vie, l'amour, le sentiment, l'amitié étaient revenus. L'attirance physique est revenue. Et on est vraiment amis, mon mari et moi, on cause. Comme le mari, même en agapao. Donc, il me soutient, il me comprend. Il est prêt à offrir sa vie pour moi. Du coup, on devient amis naturellement. Et puis, physiquement, on aime bien rester ensemble. Amen. Et comme l'amour ne finit pas, agapé ne finit jamais, philéo et eros qui naissent de agapé sont constamment renouvelés. Amen. On continue. Donc, confesser son amour. De agir selon son espérance, sa foi et son amour. C'est-à-dire, parce que je commence à confesser, je me comporte en fonction de ce que j'annonce et de ce que je dis. Amen. Voilà. On continue, allons-y. Maintenant, le deuxième aspect de la soumission, c'est soumission, comment je parle, atmosphère favorable à la mission. Donc, le premier, soumission veut dire agapé. Soumission, la Bible dit, femme, soyez soumise. Je vous ai expliqué que la clé pour renouveler le foyer, pour renouveler la joie dans le couple, c'est la soumission. La Bible dit, femme, soyez soumise à votre mari, afin que si un homme n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par l'attitude de sa femme. Et nous sommes en train donc de décortiquer le grand mot qui est la soumission. Amen. L'autre aspect donc de la soumission, c'est l'atmosphère favorable à la mission. Amen. Dans le livre de Genèse, lorsqu'il est dit que Dieu a créé la femme à partir de la côte de l'homme, le mot côte en hébreu, c'est le mot tsela qui veut dire le point faible. Mardi dernier aussi, j'ai touché quelques aspects en cela. Amen. Donc, la femme, une femme détient en elle tout. Et, mes soeurs, écoutez, voilà tout le secret. Il y a un grand secret là. Amen. La femme a la clé du cœur de l'homme. Dieu a pris la côte. C'est vraiment la côte. Il faut la côte pour arriver au cœur, non? Les côtes protègent le poumon et le cœur. Et la femme vient de là. Donc, la femme est la porte du cœur de l'homme. Une femme, si elle comprend ce puissant aspect de la soumission que je vais citer maintenant, peut amener tout homme à changer. C'est de ce pouvoir-là que certaines femmes utilisent pour détourner des hommes. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Ce pouvoir doit être utilisé par rapport à votre mari. Laissez les gens tranquilles dans la ville. Alléluia. Laissez les gens tranquilles. C'est pourquoi, très chers frères, Dieu nous dit, Dieu dit à l'homme de fuir l'impudicité. Parce qu'il sait que, naturellement, tu n'as pas la force de résister à une grande attaque de séduction. Si tu restes devant, qu'elle commence à te faire les jeux des phares, de mouvements, tout ça, tous tes repères, même ta foi chrétienne, tu risques de l'oublier dans quelques secondes. Tu vas regretter après. Donc, Dieu te dit, la femme est ton point faible. Donc, lorsque tu vois que tu es au bord d'un problème, Dieu ne te dit pas de résister. Il dit, fuis. Les autres péchés dans les Écritures, il faut, la Bible demande de résister au diable et au péché. Mais l'impudicité, là, Dieu dit, fuyez. Quand tu vois l'impudicité, tu fuis, mon frère. Ne cherche pas à dire, moi je suis un gars trop loin, je vais résister. Tu ne peux pas. C'est ton point faible. Alléluia. Donc il faut fuir. Il faut éviter de vous retrouver avec des sœurs. Seul à seul. Il faut fuir. Si vous voulez faire des entretiens spirituels, soyez en public, on vous voit. Et puis parlez. Les rendez-vous à huis clos. Et puis, on va t'expliquer. Il faut que je t'explique parce que j'ai un secret profond. Viens chez moi à la maison à minuit, à 22h. Il faut que je te parle profondément. La sœur peut avoir de bonnes intentions. Mais un jour, c'est-à-dire vous connaissez pas, le diable est dangereux. Là où j'ai vraiment respecté ce passage, ça m'est arrivé, j'étais à Gagnoua. Et puis, il y avait une soeur qui avait un problème. Et puis, on était sur le chemin, une route. Et cette fille-là, c'est comme si les esprits sont tombés sur elle, comme si elle était tourmentée par les démons. Elle est tombée en pleine route. Et puis, il y a une zone où les lampadaires ne marchaient pas bien. Donc, il faisait sombre dans ce coin-là. Mais vous riez déjà, je n'ai rien dit là. Et puis donc, voyant l'esprit l'agiter, je me suis juste incliné pour chasser le démon. J'ai dit, au nom de Jésus, va-t'en. Mais j'ai senti l'esprit qui est sorti. Et c'est comme si l'esprit est venu sur moi. Et à l'instant même, je me suis senti faible. C'est comme si ma tête a changé. Je me dis, saute sur elle. Sur la route, même pas dans une maison. Et je me suis arrêté, je dis, Seigneur, ta grâce. Et puis l'esprit est parti. Quand j'ai rêvé, j'ai dit, j'ai compris pourquoi Dieu dit de fuir l'impudicité. Et tu dis, non, moi je suis Dieu, tu sais, les trucs, ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas m'arriver. Une femme a amené le grand roi Salomon à se prosterner devant des idoles. Salomon qui a écrit lui des proverbes. Salomon qui parle de Dieu avec autant de grâce et de sagesse. Quand vous lisez même, c'est Salomon qui écrit tous les proverbes qui dit, fuis la femme étrangère, j'ai dit elle est dangereuse. Il parle, il connaît la Bible. Dieu, il le connaît. Salomon, pour avoir certaines femmes, elles lui ont dit, prosterne-toi devant mon Dieu. Salomon qui dit que l'Éternel seul est Dieu. Celui qui a fait une offrande comme on n'a jamais fait à Dieu. Celui qui a bâti le plus grand temple pour Dieu, a fini par adorer des fétiches. Frère, la Bible dit pourquoi? Parce que son cœur était entraîné par l'amour des femmes. Samson, et on va voir comment Delilah a fait pour séduire Samson. Samson, une alliance unique avec Dieu, a perdu son appel, mais a renié son vœu à cause d'une femme qu'on appelle Delilah. Cette capacité-là se trouve dans la femme. Malheureusement, beaucoup l'utilisent pour détruire. C'est pourquoi les hommes, il faut veiller sur vous-même. Il faut veiller sur vous-même. Amen. Il faut veiller sur vous, il faut être prudent, il faut faire attention. Quand tu vas aller faire une délivrance pour une soeur, mon frère, il ne faut jamais aller seul. Même si elle dit, on t'appelle à 3h du matin, pasteur, je meurs. À 3h du matin, là, dis, ma soeur, Dieu te garde. Je vais venir à 9h. À 3h du matin. Venir faire une délivrance à 3h. Si tu veux, faut mourir. Tu ne mourras pas. Dieu est vivant. Frère, veillez sur vous. Alléluia. Ah oui. C'est ça, des choses qu'on a vu quand tu es passé là. Quand on voit que tu es trop doudou là. Hein, pasteur, à 16h là, je ne vais plus bien. Le diable m'étouffe. Je vais mourir. Tu es tellement plein de compassion. Tu prends un taxi. Allez jouer au policier. Si tu n'as pas trouvé au moins deux frères pour t'accompagner, tu dis, ma soeur, je ne peux pas venir. Tu vois, même si ce jour-là, tu n'as pas chuté, mais il y a un venin qui va rentrer dans ton esprit. Satan va commencer petit à petit à faire baisser ta garde. Et généralement, pour que la femme arrive à manifester, à mener un homme à changer de position. Parce que la Bible dit, rappelez-vous, la Bible dit que si la femme applique la règle de la soumission, elle va amener sans parole son mari à l'obéissance de la parole. Amen. Alors, comme je l'ai dit, malheureusement, cette arme-là, certaines femmes l'utilisent pour détruire. Les maîtresses qui sont arrivées à détourner le mari de la maison ont utilisé généralement cette arme. Mesdames, utilisez-la dans votre couple. Ne laissez pas la femme du dehors le faire. Si elle le fait, si la secrétaire utilise cette arme, si la femme qui a décidé de séduire votre mari utilise cette arme, ces armes-là, elle peut le détourner. Mais vous-même, gavez votre mari de ces choses, de sorte qu'il ait toujours envie de rester à la maison. Alléluia. Alléluia. Créez cette atmosphère-là. Alors, devez cette atmosphère. Verset 6, il est dit, « Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. » Donc, dans, là où Dieu a mis l'eau, il a demandé à ce qu'on prenne des vases, 6 vases, et qu'on mette de l'eau. Et la Bible dit que la contenance de ces vases, de ces 6 vases, était de 2 ou 3 mesures. Alors aussi, ces 2 ou 3 mesures m'ont amené à voir quelle était la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole, c'est pas ça? Quelle était la parole de Dieu au 2e et au 3e jour? Et c'est là que vous allez comprendre donc, quel est l'environnement idéal dans lequel l'homme évolue et par lequel la femme peut avoir l'homme. Donc, 2e jour, au 2e jour, on va pas lire le passage, Dieu a créé le ciel. Au 3e jour, Dieu a créé la flore. Amen. Le 2e jour, Dieu a créé le ciel. Le 3e jour, Dieu a créé la flore. Madame, si tu veux ramener ton mari, applique le secret du 2e jour. C'est le secret que ces femmes l'ont appliqué vers Salomon, que Delilah a appliqué aussi envers Samson. Les paroles de louange et de considération à son homme, l'élévation de son homme, admiration et respect par rapport à ce qu'on souhaite. Éphésiens chapitre 5, verset 22 dit ceci. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Quelle est l'attitude de l'Église vis-à-vis de Jésus? Ce n'est pas simplement de l'obéissance, mais c'est aussi de l'admiration, de la louange. Amen. Et des paroles d'honneur. L'amour agapé t'amène à dire ce que tu souhaites, de dire ce qui n'est pas comme si cela était. Et la Bible dit à la femme, « Femme, soyez soumise à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. » Alléluia. Au début, ces paroles me choquaient. J'ai dit, « Mais non, Dieu, pourquoi tu veux comparer la soumission de la femme à ce qu'elle fait pour toi, le Seigneur ?» Mais Dieu dit, « C'est vrai. » Et quand vous lisez dans l'Impie, la Bible dit que... comment ça s'appelle ? Sarah appelait Abraham, comment ? Son Seigneur. Mais le secret est dedans. La livre de 1 Corinthiens, on n'a pas le temps de lire, mais 1 Corinthiens chapitre 11 dit que l'homme est l'image directe de Dieu. Et un homme, il est honoré. Un homme bouge, change plus quand vous lui faites des compliments que quand vous le reprenez. Comprenez ça? Un homme, ton mari, est, par exemple, il est avare. Il n'aime pas donner l'argent. On a déjà cité les listes, non? De problèmes. Et puis tu regardes. Tu vas commencer à confesser ce que tu veux. Tu laisses ton cœur d'abord rempli par agapé. Parce que si tu veux parler par filéo, tu vas lui dire 3 mots. Attends, pourquoi tu es méchant avec ton argent, quoi? Ça là, c'est ton héros, mais ton filo, ça t'a fait trop mal. Donc laisse ça passer. Reviens sur agapé. Agapé est patient. Agapé est doux. Et tu commences à dire, tu sais, tu dis à ton mari, tu sais, j'aime une chose sur toi, tu es vraiment un homme extraordinaire. Mais tu as bien prié, hein, Dieu a... Et tu dis, tu sais, tu es vraiment un homme extraordinaire. Tu dis, pourquoi? Tu dis, tu sais tellement prendre soin de ta maison. Tellement tu es un homme excellent. En fait, pourquoi? Vous savez, dans le 2e jour, Dieu a créé le ciel. Le ciel, c'est notre espérance. Vous comprenez, non? Et c'est ça ce que tu dis à ton mari. Tu es un homme, tu es tellement grand. Et puis tu dis, chérie, tu as une grande libéralité. Oh, le monsieur, il n'aime pas donner. Hein. Tu dis, les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas qui tu es. Que tu es très bon de cœur. Tu sais, ma soeur, Dieu ne peut pas te donner de marier un poison. Et puis Dieu ne va pas continuer à ce que tu vives dans une situation compliquée jusqu'à la fin. Si quelqu'un est avare, ce n'est pas normal. Il n'est pas en train d'obéir à la parole. Amen. Donc, il faut l'amener à être généreux. Il faut l'amener à le faire. Maintenant, comment l'amener à le faire? Ce n'est pas en le réprimandant. Tu dis, tu es avare. Va te parler mal, toi aussi. Et puis, vous deux, vous êtes dans la situation ne bouge pas. Donc, tu lui dis, tu es trop gentil. Personne n'est comme toi. Mais est-ce que ce n'est pas ce que l'Église dit au Seigneur? Mais Jésus, lui, il est vraiment bon. Ok. Hein? La différence, c'est que... Mais on s'arrête devant Dieu. Quelquefois, mais tu n'es pas encore exaucé. Qui est comme toi, Jésus? Pourquoi le ciel? Parce qu'il est au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ah Dieu, qui est comme toi, mon Jésus? Tu es bon, Seigneur. C'est ce qu'il dit. Femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Or, qu'est-ce que tu dis au Seigneur tous les jours? Oh Jésus, tu es mon Jésus. Je t'aime, mon Jésus. Même si Jésus t'a frappé hier. Tu es glorieux, mon Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit, non? Donc, c'est ce que Éphésiens 5, 22 dit. Femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. L'église est soumise à la truc. Donc, ce que tu fais pour le Seigneur, là, faut faire ça pour ton mari. Il y a des fois, le Seigneur t'a éprouvé, tu es passé dans le feu, mais tu sors du feu, tu te mets à genoux. Qui est semblable à toi? Jésus. Tu es mon admirable conseiller, le roi de gloire. Les larmes sont dans tes yeux, hein? Tu es le roi de gloire. Alléluia. Quelqu'un me suit, quelqu'un me suit. Amen. Donc, vois comme ton mari il est au ciel. Ah, c'est le deuxième jour. Il faut lui parler. Dis-lui des bonnes choses. Après, tu vas dans ton cœur, tu pleures un peu. Seigneur, pardon. Tu te concentres. Seigneur, garde-moi, garde-moi. Et puis tu continues. Ça va marcher. Il faut le lever. Il faut dire ce que tu souhaites de sa vie. Il faut annoncer les choses que tu veux. Et ça amène un homme à devenir doux. C'est pourquoi les secrétaires, souvent, ils arrivent à détourner les hommes. Si tu es secrétaire, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Mais, en fait, parce que très souvent, ce sont des personnes qui encensent le patron. Vous n'avez pas remarqué que comment quelqu'un arrive à vite escroquer un homme, c'est quand il le flatte. Même si tu sais que les griots viennent pour t'escroquer, quand un griot vient s'arrêter devant toi, et puis il part, raconte-moi, tu es sapé, tu es beau, toi-même tu sais qu'il ment. Mais en même temps qu'il dit, tu es content, quoi. Ta main glisse dans ta poche, tu dis, oh mon ami. Parce que l'homme n'est pas insensible à la louange. Lorsqu'il commence à être célébré son cœur, il y a quelque chose qui bouge en lui. Parce qu'il vient de Dieu. Et que Dieu lui-même n'est pas insensible à la louange. Donc lorsqu'un homme est célébré, lorsqu'un homme est loué, son attitude change carrément. Même s'il sait que... C'est ça pour vite les escrocs. Ils viennent, mais toi tu es l'intelligent. C'est toi qui as sauvé ton pays ici, le village, c'est toi. Qui te connaît plus quand on parle comme ça, tu vois. Et tu vas voir que si un homme qui tourne autour de ton mari, ça lui va donner l'argent. Juste parce qu'il sait l'encenser. Parce qu'il sait le flatter. Donc quand le gars dit, mais tu sais, j'ai un petit problème pour t'aider, hein, l'argent sort. Parce que quelqu'un sait te parler. L'homme est, il frémit en lui-même. Lorsqu'il est célébré, lorsqu'il est loué, lorsqu'il est considéré. C'est cette fibre-là qu'il faut utiliser. Le deuxième jour, elle dit, dans les vases, il y avait deux mesures. La deuxième mesure. Amen. La troisième mesure, on continue. Maintenant, l'environnement du troisième jour pour l'homme. Le troisième jour de la création, Dieu a créé la flore. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. Vous pouvez lire tout Juges chapitre 16. Verset, Juges chapitre 16, ça parle de l'histoire de Samson. Il a dit, c'est Delila. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Comment elle a fait? Elle a mis sur son genou. Elle est sur sa cuisse. Elle l'endormit sur les genoux. C'est-à-dire, elle avait une manière de le prendre. L'homme est influencé par l'atmosphère autour de lui, par le confort dans lequel il se trouve. Beaucoup d'hommes vont dire souvent qu'ils sont insensibles, mais ce n'est pas vrai. Y compris les femmes comme les hommes, nous ne sommes pas insensibles à l'environnement. Ça a de l'influence directe sur nous. Amen. Ça a de l'influence. Alléluia. Agréable à voir, bon à manger. Amen. La Bible dit, dans l'atmosphère, il faut la paix dans la maison. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Amen. J'ai déjà parlé de cela. Et simplement, même votre maison, quand vous voulez quelque chose, sachez-le, un homme, il est un peu plus érosse que la femme. Il faut la voir dans ce domaine. Premièrement, madame, même si tu n'as pas beaucoup de moyens, prie l'Éternel. Parce qu'il y a une chose, tu veux que ton foyer aille loin. Souvent, prends le temps de changer un peu la décoration de ta maison. Mets les couleurs par rapport au message que tu veux donner à ton mari. Ça, c'est pourquoi Dieu t'a donné une sensibilité plus grande que celle de l'homme. Tu sais t'habiller. Tu sais ce que tu veux traduire. Quand ta sensibilité est là, la femme a le sens des couleurs. Dieu lui a donné cela naturellement. C'est elle qui crée l'atmosphère dans laquelle un homme se sent bien. C'est pourquoi, c'est pas simplement pour t'habiller toi-même, hein, mais quand tu prêtes attention aux couleurs, toi ça ne te laisse pas indifférente. En fait, c'est une sensibilité naturelle que Dieu te donne parce que ça crée une certaine atmosphère dans ton foyer. Amen. De temps en temps, par exemple, tu arrives, tu déplaces un peu le lit, tu changes un peu la maison, et puis, tu fais des petites touches dans la maison. Là. Quand l'homme arrive chez lui, tu vois, la décoration, toi-même tu es calme, la douceur, quand il trouve du repos chez lui, tu vas te rendre compte que l'homme n'aime plus beaucoup sortir, il aime rester à la maison. Dès qu'il finit le boulot, il a envie d'entrer à la maison. Un homme qui tarde au boulot et qui n'a pas envie de vite rentrer, c'est qu'il n'est pas allé chez lui. Il trouve toujours des trucs à faire au travail. Chérie, on m'a donné un boulot là. Je dois finir vers 22h30. Bon, de temps en temps, ça peut arriver. Mais continuellement, ce n'est pas vrai. Et le monsieur a dit à son patron, « Patron, vous m'excusez, hein, mais il faut que je rentre aussi. » Parce qu'il a envie de rester avec sa femme. Il a envie de rester avec ses enfants. Il faut donner à ton mari. Et la femme est la maîtresse de la maison. Quand vous lisez Proverbe chapitre 31, la Bible dit une chose. La Bible dit, la femme qui tient tenir sa maison, son mari est respecté aux portes. Il faut tenir ta maison. Alléluia. Alléluia. Si le mari est compliqué, parce qu'il y a des maris aussi qui ne veulent même pas laisser leur femme tenir leur maison. Pourquoi tu fais ceci? C'est trop cher. Où tu as pris ça? Mais on a des problèmes. Et puis tu fais un truc. Il ne faut pas trop l'écouter. Là, c'est ton domaine. Dieu t'a donné. Prie, travaille, cherche petit petit. Mais si tu n'as pas beaucoup de choses, mais crée l'atmosphère. D'abord, vis-à-vis de ton caractère, ne t'irrite pas, sois douce. Amen. Quand tu veux obtenir la... Tu sais, quand un homme est coincé, même quand tu te plains, c'est un peu l'histoire de Delilah. Hein? Tellement Samson était tranquille chez elle. L'endroit était beau, verdoyant, propre. Tellement Samson. Il sait que la femme là veut le séduire. Mais quand il va... Un homme, c'est un guerrier. Quand il a fini de travailler, il s'est battu. Il s'est dit, mais où je vais dormir? Et puis il retourne. Donc, cette atmosphère-là, il y a la bonne nourriture. Il dit, mes soeurs, il faut savoir. La cuisine, là, ça attire un homme. Bien préparé. Cuisine, ça dit, tu. André, vous n'êtes pas d'accord avec ça, les soeurs. J'ai dit, comment tu as ramené. Faut... Prie pour avoir l'onction. Tu as l'onction. Si tu n'as pas pris, prie pour avoir l'onction. C'est-à-dire ton mari doit aimer plus manger sur toi que d'aller manger dans un restaurant. Vu quand même, quand ses amis viennent, il a un colloque à faire. Il dit, mais pourquoi aller manger dans un restaurant? Ma femme, elle va faire la cuisine. Il faut constamment ramener ton homme chez toi à la maison. Constamment. Cuisine, entretien de la maison, atmosphère dans la maison, maintien un homme à la maison. Amen. Il se sent à l'aise là, c'est ici que c'est à la maison qu'il a envie de travailler. C'est dans ce sens-là que tu appliques là, sous la mission. C'est là qu'il a envie de travailler. C'est quand il est avec toi qu'il se sent fécond, qu'il se sent créatif. C'est quand il est avec toi, il est épanoui. En ce moment-là, ça le propulse et il tient absolument à revenir dans cette maison et il ne peut plus se séparer de toi. Parce que ce que tu lui donnes, il le trouve nulle part ailleurs. Donc, quelles que soient les femmes qui vont s'élever pour le séduire, lui faire yeux doux, tout ça là, mais tu ne peux pas remplacer. Alléluia. Voilà. J'ai donné un doc. Les non-mariés, fermez vos oreilles. Hein? J'ai donné un doc à une femme. J'ai dit, tu sais, elle, son mari veut commencer, il veut damner sur elle. J'ai dit, s'il va vers une autre femme, sache qu'elle n'est pas meilleure que toi. Si c'est toi qui l'as marié en première position, c'est qu'il avait vu beaucoup d'autres. Et c'est toi qu'on a choisi. Tu es unique. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Ne te compare même pas avec l'étrangère. Tu es meilleur qu'elle, de loin. Donc, il y a. Mais c'est que, il y a un des aspects de la soumission que tu n'as plus appliqué pendant un moment. Ce qui a fait que l'autre, elle a utilisé ça et elle a prise. Mais si c'est toi qu'on a marié, c'est que tu es la meilleure. Alléluia. Donc, ramène-le. Recommence. Séduis-le à nouveau. Fais les yeux, frappe les yeux, tout ça là, c'est bon. C'est pas charnel. Hein, de temps en temps, bon, quand j'avais fait retraite avec le couple, je vais vous expliquer, il y a d'autres trucs. Toc. Il faut le séduire. Le type arrive à la maison, ton habit même, un peu léger, bien façon là. Un peu truc, ça dérange. Le monsieur, il a fini de travailler. Ah, il y a d'autres trucs. Tu mets, vous savez, Lisez Cantique des Cantiques. La Bible parle des parfums et des gens d'ensemble. Tu mets des parfums comme ça, un peu exotiques là. C'est dans ta maison, il y a une odeur, un parfum dans ta maison. Quand le gars rentre, il est un peu, il voit la déco. Toi-même, tu fais comme si tu t'occupes pas de lui, hein. Mais ton habit, un peu truc, tu t'occupes de ta cuisine, chérie, tu vois. Là, quand il voit ton habit, tout ce que tu fais, il est dérangé. Tu fais ça deux ou trois fois. Après, maintenant, tu viens. Et puis, tu le loues là-dessus. Tu sais ce que j'aime chez toi. Donc, quand maintenant, il est chaud, il veut aller dans la chambre. Tu es un homme extraordinaire. Et tu investis tellement dans ta famille et dans tes enfants. Demain, il va ouvrir le compte. Tiens, gérons les enfants. Ta vision, c'est sa vision. Ta destinée, c'est sa destinée. Il sera collé à toi. Tu as eu ton mari. Amen. Alléluia. Est-ce que les femmes ont saisi? Donc, le troisième jour, c'est ce jour-là où Dieu a créé l'environnement dans lequel l'homme et la femme devaient vivre. C'est pourquoi donc, il y avait deux et trois mesures. Amen. Deuxième jour, le ciel. Or, le ciel, ça parle de l'adoration, ça parle de l'espérance. C'est ce que je dois dire à mon mari. Troisième jour, l'environnement que je dois créer dans la maison. La maison doit être propre. Tu dois veiller à ta maison. Tu dois veiller à la propreté de ta maison. Tu dois veiller à ce que tes enfants soient propres. Même si tu n'as pas le temps de t'occuper, il faut que les nounous, les filles que tu mettes là-bas, veillent à ta maison. Si ta maison est désagréable, ton mari va partir. Si on arrive à la maison, ça paraît simple. Lui-même, il ne va pas se rendre compte, mais dans son subconscient, la maison commence à le déranger. La maison commence à le déranger. Il arrive, la maison est sale, les assiettes sont jetées partout, dans le lavabo, c'est sale, tu vas accumuler les affaires. Les assiettes là pendant 7 jours, tu n'as pas le temps, assiette est là, vous deux, vous vous débrouillez dans... La maison n'est pas nettoyée. C'est le soir avant de te coucher là. Tu vas balayer. Il y a un truc que tu commences à déranger en lui. Il ne retrouve plus le troisième jour. Et il commence à rechercher ça à l'extérieur. Donc il commence à prendre plaisir à manger des maquis. Quand ses amis l'invitent le soir, viens, on va aller au restaurant dans ta maison. Il préfère aller avec eux. Mais il ne s'en rend pas compte. Mais en fait, dans son cœur, il commence à se détacher de sa maison. Tu dois veiller sur ta maison. Lis Proverbe chapitre 31. Veillez sur ta maison. Il va constamment revenir. Amen. C'est ce que la Bible appelle la soumission. Quand on dit femme, soyez soumise là. C'est ça là. C'est pas autre chose. Tu appliques ça. Il n'y a rien à faire. Continuons. Alléluia. Bon, soumission égale sous la mission. Bon, j'en parlerai une prochaine fois. Amen. Mais ce que je viens d'expliquer déjà, ça parle de sous la mission de Dieu. Brièvement, ce que je peux dire là-dessus, c'est que il faut savoir que votre couple est là pour la gloire de Dieu, pour manifester la grâce de Dieu, pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Et il faut toujours prier pour le but de ton couple. Pourquoi Dieu t'a donné de marier cet homme? Même si dans le passé tu as fait une erreur, tu n'as pas suivi tous les principes que nous avons enseignés. La Bible dit une chose. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce maintenant un jour nouveau. Même si tu as fait des erreurs dans le passé, il ne faut pas croire que Dieu va continuer à te juger sur ton passé. Le mari que tu as là, tu l'as marié peut-être juste pour l'argent, mais aujourd'hui tu es dans ce foyer. Dieu dit, tu ne dois pas divorcer. Amen. Applique ces choses-là pour renouveler. Commence à confesser ton amour, même si tu ne l'as jamais eu avant même de l'épouser. Commence à confesser ces choses. L'amour va commencer à naître. Philo va venir, Eros va venir. Crée l'environnement. Tu vas voir que ton couple va bouger, va se booster. Peu importe tes erreurs dans le passé. Quand tu te rends compte de la parole, tu te réponds de ton passé et Dieu t'accorde une nouvelle grâce. Mais il faut savoir que Dieu vous a mis ensemble pour une destinée précise. Et il faut... L'autre aspect de la soumission, c'est la mission de votre couple. Pourquoi Dieu vous a mis ensemble? Proverbe chapitre 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. La Bible dit que toutes choses ont été créées pour la gloire de Jésus-Christ. Il faut vous consacrer à votre destinée, à votre vision. Il faut que votre couple ait une vision. Je reviendrai sur cet aspect-là une autre fois. Et le quatrième point, amen, pendant que la femme fait ceci, il faut prendre le temps aussi de s'examiner toi-même. Savoir pourquoi tu t'es marié au départ. Quel était vraiment ton but? Est-ce que tes sentiments étaient les bons? Est-ce que tes pensées étaient justes? Et puis, demande à Dieu de rectifier toutes ces choses-là en toi. Amen. Alléluia. Avec ce qu'on a expliqué, tu as pu comprendre que toi-même, la base avec laquelle tu as engagé ton couple était faussée dès le départ. Il faut les ramener devant l'Éternel et demander à Dieu de te guérir de cela et de t'accorder un jour nouveau, de t'accorder une grâce nouvelle, afin que le reste de tes jours avec ton conjoint soit radieux, heureux et pour tout le temps. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, appliquez ces choses et vous aurez un foyer extraordinaire. Alléluia. Je termine aujourd'hui avec la liste. Est-ce que je sais ici? Les hommes, la liste des hommes. Comment un homme peut-il amener le vin nouveau dans sa famille? Je voulais tout faire aujourd'hui, mais vraiment. Parce qu'il m'a dit prochain, je vais faire un break pour qu'on étudie autre chose. Comment un homme peut-il amener le vin nouveau dans sa famille? Là, je parlais de la femme. On va aller rapidement au point 1. C'est toujours la même chose. Point 1. N'acceptez plus en victime résignée cette situation. C'est valable. Ce que j'ai dit pour les femmes, c'est vrai aussi pour les hommes. Le point 2. Donc, évitez les excuses. 2. Identifiez et écrivez sur une feuille ce que vous ne supportez plus chez votre conjoint. Ça, c'est aussi valable pour l'homme. L'homme veut ramener le vin nouveau, il va identifier, il va noter. Troisième chose. Que faut-il écrire? Les défauts de l'autre. C'est-à-dire que de la femme. Non, reviens. Les défauts, ce qu'on n'a jamais aimé supporter chez le conjoint, ce qu'on ne supporte plus dans le couple. L'homme doit aussi écrire toutes ces choses-là. Il faut prendre le temps d'écrire, il faut noter ce que tu supportes plus chez ta femme, tout ça. On continue. Voilà un homme, ce qu'il peut écrire pour sa femme. Elle est très compliquée et chichiteuse. Elle est possessive et jalouse. Elle refuse d'aller souvent avec moi. Elle dit, quand tu lui parles la nuit, elle veut pas. Tu dis, chérie, allons-y, niette. Elle a toujours mal à la tête, les nuits. C'est la nuit avant de dormir que madame a mal. Comme Pasteur Kassané a dit, si tu as mal à la tête, il faut prendre aspirine. Mes parents, c'est à molle. Hein? Elle se fâche trop, elle s'irrite trop. Elle ne reconnaît pas ce qu'on a fait pour elle. On a souvent l'impression que les femmes, tu as beau faire, tu agis, et puis chaque fois elles te ramènent les choses avec violence. Il y a des femmes qui lisent, parce que c'est ce que leur mari leur dit. D'ailleurs, tout ce qu'elle fait pour toi, tu ne reconnais jamais, tu oublies toujours tout. La femme réagit comme ça parce qu'à cause de la sensibilité. Vous savez, quand tu vis ton amour par rapport à un filéo, c'est comme ça que tu parles. Tu emploies les mots pour traduire la douleur de ton cœur. Vous savez, quand votre amour pour le Seigneur est très philéoïque pour Jésus, là, quand il te bénit, tu as l'impression que depuis toute ta vie, chrétienne t'a toujours béni. Tu dis, depuis que je marche avec toi, qui est semblable à toi? Mais quand il t'éprouve, tu as l'impression que toute ta vie, tu as souffert. Tu dis, je n'ai jamais connu le bonheur avec toi, Jésus. Vous n'avez pas remarqué ça chez vous-même? Si, il y a des fois, quand Dieu t'éprouve là, tu dis, ma vie chrétienne a toujours été douleur et souffrance. Je connais que la souffrance. Mais le jour où il te bénit, il est fidèle, mon Jésus. Il a toujours été bon pour moi. En fait, comme la femme est beaucoup plus filéo que l'homme, généralement, elle pense ainsi. Ainsi, si tu as invité ta femme il y a 4 semaines au restaurant, qu'elle en vient encore de partir au restaurant, elle va te dire, la frère, ta chérie, même tu m'invites jamais avec toi là. On ne sort jamais. Le mot jamais. Quand un homme entend ça, c'est comme si tu viens de les gifler. Il va dire, mais toi, tu ne le connais pas, hein? C'est pas toi. Comment tu peux dire jamais comme ça? En fait, le jamais, ça signifie 2 choses. Ça veut dire, on ne sort pas souvent ensemble, tu ne m'invites pas souvent. Mais tellement son cœur, elle a envie de sortir, tellement ça lui fait souffrir, ça la fait souffrir, elle te dit un mot pour te piquer. Donc, parce que, vous savez, on ne sait pas traduire, la douleur de l'âme ne se traduit pas avec des lettres. Donc, elle cherche une phrase bien armée là, pour te... Donc, elle va dire, jamais, ça te pique, pia. Là, on dit, mais comment jamais comme ça? Toi là, tu es, est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais que tu ne me donnes jamais de l'argent? Tu ne m'as jamais offert de cadeau. Il dit, comment jamais? En tout cas, très rarement, j'ai dit très rarement. Et elle te roule les R et les traits. Je dis très. Avec les yeux là-dessus. Voilà. Ou bien, par exemple, la femme veut prendre l'autorité, elle veut commander, elle ne fait rien. Donc, on peut avoir plusieurs listes. Mais en tout cas, tu dois faire ta liste. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, le point particulier aussi en ce qui concerne l'homme, c'est toujours la notion de agapé. Comment le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Le point central, c'est ça. Amen. Alléluia. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Les hommes, comment ramener le vin nouveau dans ta famille? Si c'est toi qui es le premier à prendre conscience du problème, tu peux ramener. Amen. Il faut aimer ta femme. Qu'est-ce que Jésus a fait pour l'Église? Il a aimé de manière extraordinaire. On était voleurs, pécheurs, quels que soient nos défauts. Jésus-Christ s'est offert pour nous. La soumission et l'amour que Dieu demande à l'homme ou à la femme, ne sont pas des attitudes de réciprocité. Ce n'est pas que la femme dit « je me soumets quand tu m'aimes » ou le mari dit « je t'aime quand tu es soumise ». Pour Dieu, ça ne tient pas. C'est pourquoi il dit « vous deux, vous avez tort ». Une de ces personnes doit déclencher la manifestation du deuxième vin. Amen. Et la part qui incombe à l'homme, c'est l'amour agapé aussi qu'il doit manifester vis-à-vis de sa femme. On a déjà défini ce que c'est que l'amour agapé. Alléluia. Maintenant, on va l'étudier donc par étapes en ce qui concerne l'homme. Amen. Alléluia. Il faut être prêt à te sacrifier pour elle. Je termine avec ceci. Je dis ceci avec, toujours dans mon témoignage. Lorsque Dieu m'a rendu compte, Dieu a ouvert mes yeux pour comprendre mon tort vis-à-vis de ma fiancée. Quand je vais comprendre, lorsqu'il va me guérir, je suis reparti vers elle, ça n'a pas été facile. Elle avait aussi un cœur blessé. Blessé par moi, mais blessé par son passé, blessé par sa situation. Le travail, mon travail a consisté à offrir ma vie pour elle. Pendant un moment, c'est un peu comme si, que ce soit le ministère, toute autre chose, j'ai compris que la clé de mon ministère, c'était ma femme. Et que si je m'offrais pour elle, j'étais en train d'accomplir la volonté. Et c'est comme ça que j'étais en train de conduire ma famille. Et dès cet instant-là, selon l'ordre du Seigneur, je devenais apte à être un évêque, c'est-à-dire à être un pasteur. Je n'étais pas apte à être pasteur. Je ne peux pas prendre le titre de pasteur si je ne sais pas gérer ma maison. La Bible dit que celui qui ne sait pas s'occuper de sa famille ne peut pas prétendre à être ancien. Autrement dit, pasteur et autre. Alléluia. Donc mon ministère commençait là. Amen. Amen. Et la dernière phrase que j'ai demandée pour dire aux hommes, le dernier secret que j'ai donné aux hommes, le quatrième point, il dit, Marie, aimez une femme comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je parle aussi donc de la puissance de la parole d'un homme vis-à-vis de sa femme. La femme est beaucoup influencée par ce qu'elle entend. Amen. Comment est-ce qu'on peut sanctifier une personne? Par la parole. Comment la parole peut sanctifier, peut amener une personne? Sanctifier, ça veut dire mis à part pour. Comment par ta parole, tu peux mettre ta femme à part pour toi? Sanctifier, ce n'est pas dire simplement sans péché. Sanctifier, ça veut parler aussi de consacrer, destiné à Dieu et au bonheur conjugal. C'est possible. Amen. On va baisser les têtes et prier l'Éternel pour ce qu'on a entendu ce soir.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came from heaven.